À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Et c'est toi en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Séquence Midi, votre émission d'actualité en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h. Avec vos découvertes musicales, votre agenda, votre rendez-vous cinéma du mercredi. Et oui, c'est le printemps et pas qu'avec le soleil, c'est aussi dans les salles et bien sûr vos invités. On parlera aujourd'hui rénovation énergétique. Il y aura plein d'informations que vous pourrez aller piocher dans cette émission, mais aussi lors de conférences organisées sur le territoire. Mais on revient sur une mobilisation qui est inédite, c'est celle du réseau des mission locale. Et pour en parler, Dominique Comon, membre du bureau d'Union territoriale Synami CFDT Nouvelle-Aquitaine, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes avec Marie-Hélène Baudin, déléguée régionale du bureau d'Union territoriale Synami CFDT. Bonjour.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être avec nous pour nous parler de cette mobilisation. Effectivement, c'est une première. Les missions locales se mobilisent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour la première fois, vous avez décidé de prendre la parole?
Bonjour. Alors, les missions locales ont décidé en janvier 2025 de se mobiliser suite aux annonces du gouvernement sur la baisse des subventions de 6% minimum sur les budgets des missions locales. Cette décision a de fortes répercussions sur pas mal de missions locales en termes d'accompagnement des jeunes, sur les effectifs. On ajoute à ça des régions, des collectivités territoriales régionales qui également, dans certaines régions comme les Pays de Loire, la région PACA, ont carrément aussi supprimé leur soutien financier. D'où ce mouvement de grève qui a été suivi nationalement par plus d'un millier de salariés, plus une réunion d'information syndicale, parce que c'était le matin.
Mais c'était le 14 mars dernier.
Tout à fait. Et l'après-midi, il y a eu une réunion d'information syndicale qui a aussi rassemblé plus que de 400 personnes, 400 salariés qui s'inquiètent des conséquences dans l'accompagnement des jeunes aujourd'hui.
Alors justement, on va venir sur les détails. En quoi ces coupes budgétaires mettent-elles en péril le fonctionnement en lui-même des missions locales? Après, on viendra sur peut-être l'accompagnement, mais déjà en termes de fonctionnement pour vous.
Le risque, c'est d'avoir des salariés en moins, des professionnels qui soient conseillers, qui soient agents d'accueil, qui soient chargés de projet. Et nous, c'est ça qui nous inquiète. Donc, moins de salariés pour servir la cause des jeunes. Et aussi moins, parce que l'État, quand il baisse ses subventions, c'est une chose, mais il baisse aussi les dispositifs qui sont là pour aider à l'accompagnement des jeunes. Ça a été déjà le cas en 2024. On pense au contrat d'engagement jeune. Il y a moins de possibilités que les années précédentes et au parcours d'accès à l'autonomie, dans notre jargon, le PACEA. Et ça, c'est des outils pour accompagner les jeunes. Et le CEJ, par exemple, c'est une bourse qu'ils ont tous les mois de 500 euros. En contrepartie, un peu comme le RSA, ils ont 15 heures de démarche à faire. Mais nous, à rappeler, c'est qu'on est sur l'accompagnement global. Ça veut dire on cause ensemble santé, logement, emploi, formation,
orientation,
culture. C'est tout ça qui... Ça met en péril cet accompagnement ou en tous les cas, ça le fragilise.
Alors, il y a plusieurs régions qui sont pointées du doigt. Vous parliez du Pays de la Loire qui décide carrément de supprimer totalement ses financements. La région PACA qui a moins 40%. Il y en a plusieurs comme ça. Qu'en est-il dans la région Nouvelle-Aquitaine? Est-ce qu'il y a des inquiétudes aussi ici?
Alors non, notre conseil régional soutient les missions locales, les 43 missions locales du territoire. Et on leur remercie pour ça parce que la baisse de la subvention de l'État peut déjà... Elle est aujourd'hui annoncée à 6%, elle peut être plus, et on n'a pas non plus une vision sur Il y a plusieurs subventions en fait, hein, qui arrivent de l'État et pour l'instant on ne sait pas si ça s'applique à toutes les subventions ou à une seule. Donc non, Dieu merci, la région basque, Renouvelle-Aquitaine nous soutient.
Oui, et vous parliez de toutes les missions que vous accompagnez, vraiment dans l'accompagnement de ces jeunes de façon globale. Ce que vous dénoncez, c'est la tendance à réduire les missions locales à de simples guichets d'orientation. C'est un peu ça le risque en fait, c'est que vous puissiez plus faire cet accompagnement global.
Oui.
Alors,
oui, effectivement. On a plus de 40 ans d'existence. Hein. Donc, on est des professionnels aguerris, on est reconnus. Hein. On est sous forme associative. Voilà, on a des élus qui sont là. Et le cœur du métier, c'est l'accompagnement global. Notre papa qui nous a créé, c'est Bertrand Schwartz. Il avait dit il ne faut pas éparpiller les gens et les envoyer à droite, à gauche. Mais il faut créer un lieu pour les jeunes où là on parle de tout, de l'emploi, de la formation et de ce qu'on appelle les freins.
Voilà.
Les freins qui permettent qu'on doit lever, qu'on doit aider.
Accompagner les jeunes dans la levée des freins périphériques qui sont des problèmes de logement, des problèmes de santé, qui peuvent être des problèmes de mobilité. De justice, enfin que sais-je, la vie quotidienne en fait, hein, qui sont des entraves finalement quand on veut, on peut pas avoir l'esprit à chercher un emploi ou à se former si on sait pas où on va dormir le soir,
manger,
voilà. Donc les missions locales, c'est un espace où on accueille les jeunes à partir de 16 ans jusqu'à leur 26e anniversaire. Alors sortie du système scolaire ou universitaire, parce qu'après, il n'y a pas de conditions de diplôme. Et donc, cet accompagnement global, c'est en fait prendre le jeune là où il en est, au moment où on le reçoit, et travailler avec lui. Donc, évidemment, ça demande du temps et ça demande des outils. Et on ne peut pas faire du placement. Voilà, c'est pas notre mission première. On accompagne vers, mais à côté.
Et c'est combien de jeunes que vous accompagnez? Est-ce que vous avez un petit peu ces chiffres?
Alors, au niveau national, on accompagne un peu plus d'1 million de jeunes. Nous, sur la mission locale du Nord-Vienne, donc le Châtellerault et le Loudunais, je ne sais plus combien de communes, mais bon. on accompagne à l'année 2024, on a accompagné plus de 1700 jeunes. Et on reçoit à peu près entre 680 et 700 nouveaux jeunes tous les ans.
Et à la mission locale d'insertion du Poitou, c'est 4100 jeunes en 2024 et 1800 nouveaux tous les ans. Quoi.
Et quels sont les dispositifs qui risquent le plus d'être touchés par ces baisses? Alors vous disiez que vous n'aviez pas encore le détail, mais est-ce qu'il y a des craintes plus précises?
Alors le contrat engagement jeune, c'est le dispositif qui est en cours. On sait qu'on va être limité, en fait, dans le nombre de contrats qu'on pourra signer sur une année. Ça veut dire qu'on va falloir qu'on fasse des choix.
Il va falloir dire non à certains jeunes.
Exactement. Ouais. Parce qu'en fin d'année, si on a atteint le quota qui nous est imposé, on ne pourra pas signer d'autres contrats. Donc, il y a des jeunes qui vont rester au bord
de la
route.
Sur le carreau.
Ouais.
Donc vous étiez fortement mobilisé effectivement le 14 mars. Quels sont les messages aujourd'hui que vous voulez faire passer et quelle est la suite potentielle du mouvement?
Alors la suite, au national, nos représentants syndicaux, nos deux délégués nationaux ont été reçus par le ministère. Bon, le ministère du Travail a dit, déjà vous avez pas de baisse énorme, soyez contents. Et ils ont pas, nos collègues, nos camarades ont trouvé qu'ils n'ont pas été à l'écoute. En gros, c'était soyez satisfaits, vous avez une baisse que de 6%. Donc nous, on n'est pas satisfaits et on est en train de réfléchir à une intersyndicale, donc un autre mouvement sous peu. Et puis, il y avait aussi l'idée, comme on est local ou régional, c'est-à-dire voir en région si on veut mener un mouvement parce que nos camarades des Pays de la Loire, du PACA, ils sont en grève depuis janvier parce que là, c'était grave pour eux. Et cette mobilisation nationale, elle a été là pour dire ben, c'est pas parce que les copains, là, eux, ça les touche, il faut qu'on y aille tous pour dire alerte rouge, quoi. Donc, voilà.
Et justement, oui, quels sont les messages que vous avez pu passer le 14 mars à vos collègues ou au grand public ?
Alors, le message qu'on veut faire passer, c'est que l'insertion et l'accompagnement des jeunes, c'est une priorité nationale, en tous les cas, ça devrait l'être, et que nous, on est des fois la dernière porte hein, que les jeunes poussent, parce qu'ils ont un peu erré partout. On a une pétition qui est en ligne, qu'on peut retrouver sur le site du Synami CFDT, une pétition qui, voilà, pour nous soutenir et pour dire c'est important qu'on soit toujours là, en fait, hein, au-delà de nos emplois, bien sûr, c'est surtout la jeunesse qu'on accompagne. Voilà, qu'ont besoin de nous, en fait, hein, qu'ont besoin de nous pour les guider, pour les orienter, pour leur parler des dispositifs, que ce soit la formation, que ce soit les outils de recherche d'emploi, enfin, la vie quotidienne. Et il n'y a pas d'autres, en fait, d'autres structures qui existent depuis la création des missions locales.
Merci beaucoup à toutes les deux, Dominique Comment et Marie-Hélène Baudin. Donc, vous faites partie du Synami CFDT Nouvelle-Aquitaine et vous représentiez aussi les missions locales Nord-Vienne et Poitou. Merci beaucoup.
Merci beaucoup
à
merci
toutes les deux
de nous avoir reçus.
On continue en musique avec ce titre de Fiesta en el Bacho, c'est Tox.
Cependant, un samedi soir où Anne lui a demandé de la accompagner. As-tu vu le bouquet de fleurs? Où l'as-tu donc caché? Après une soirée où on a dansé sur les Miles Davis, que je laissais faner. Et les filles s'embrassent violemment, que je laissais faner. Puis Martin dit que s'il lui a demandé de couler dans mon poulet. Je les ai déversés sur vos fleurs, voulant les réveiller. Comment se portent alors mes fleurs, se sont-elles éveillées?
Et on accueille maintenant Denis Allôme, il est conseiller du Point Info Énergie de Grand Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui à l'occasion des différentes conférences, disons de moments d'information pour le grand public qui ont lieu tout au long de ce mois de mars. Il y en a eu une déjà début mars et la prochaine c'est demain à Fontaine-le-Comte. Alors, déjà, quel est le rôle d'un Point Info Énergie, notamment à Grand Poitiers ?
Alors, le Point Info Énergie, donc, c'est une mission de service public. Grand Poitiers. Notre rôle premier, c'est d'accompagner les habitants sur toutes les questions qu'ils peuvent avoir pour rénover leur maison, pour isoler, pour changer le chauffage, pour ventiler, oui, faire face à toutes les problématiques techniques de la maison, des remontées capillaires, par exemple, des problèmes de moisissure, voilà, et savoir comment faire, quelles solutions techniques apporter à ces problématiques, et puis quelles aides financières sont mobilisables par rapport à ça, que ce soit des aides financières privées ou publiques.
Donc c'est un endroit où les gens peuvent venir prendre des informations, et là vous avez décidé d'organiser des moments publics d'information. Pourquoi aller comme ça à la rencontre des habitants ?
Eh bien, on n'est jamais suffisamment connu. Il y a encore maintenant des gens qui viennent nous voir après les travaux, ce qui est un peu tard pour avoir des bons conseils et pour déclencher des aides financières. Donc du coup, il faut que les gens nous connaissent, même si ils n'ont pas nécessairement de projet immédiat. Donc on travaille toute l'année, on est à leur écoute toute l'année, mais là, avec les nouvelles lois de finances chaque année, eh bien, en début d'année, on fait toujours des conférences pour expliquer un petit peu les nouveautés qu'il peut y avoir.
Et alors justement, en parlant de nouveautés, il y a tous ces logements qui se retrouvent déclassés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont des lettres, vous connaissez A, B, C, D, E, F, G, pour la performance énergétique, et tous ceux qui se retrouvent dans des trop mauvaises catégories ne peuvent plus être loués. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus vous parler de ça.
Alors, effectivement, pour les propriétaires bailleurs, il y a des contraintes aujourd'hui sur l'étiquette énergétique. Alors, soit qui interdit carrément de louer, soit même pour des étiquettes F, aujourd'hui, il leur interdit d'augmenter le loyer chaque année selon l'indice de référence des loyers. Donc, du coup, effectivement, ça donne des contraintes aux bailleurs et ça les encourage, finalement, à rénover leur maison ou leurs appartements pour que leurs locataires payent moins cher de loyer. Donc effectivement, là, ils viennent assez régulièrement pour ça. On a un peu plus de monde à ce sujet-là. Mais on a aussi beaucoup de propriétaires occupants qui s'occupent de leur propre maison.
Et quelles sont les autres nouveautés qui sont arrivées depuis la loi de finances 2025?
Eh bien, finalement, la loi de finances, bon, je vais pas forcément parler
dans
politique,
tout détail,
la loi de finances, finalement, nous a apporté une certaine continuité par rapport à l'année dernière. Les aides nationales sont quasiment les mêmes cette année que l'année dernière, donc avec un accent très fort sur la rénovation énergétique globale. Donc on subventionne beaucoup plus les travaux d'envergure. Donc on ne se contente pas de faire quelques mètres carrés par-ci par-là, c'est vraiment la rénovation globale avec un audit énergétique global du bâtiment. Voilà. Et puis par ailleurs, donc ça c'est pour l'aide nationale, par ailleurs il y a des nouveautés assez fortes pour l'aide de Grand Poitiers. On ne se contente pas d'apporter des conseils, on va également subventionner. L'an dernier, on subventionnait donc un certain nombre de systèmes de chauffage, un certain nombre d'isolation. Et aujourd'hui, on a augmenté les subventions pour les écomatériaux. Donc l'an dernier, on subventionnait avec un petit bonus tout ce qui est isolation des murs, isolation des rampants de toiture. Donc quand on avait un bonus supplémentaire quand on mettait un écomatériau, donc de la laine de bois par exemple, ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on double la subvention initiale quand on met ce type de matériaux.
Donc il y a deux thématiques qui seront abordées lors de ces conférences, la rénovation thermique et aussi la question des panneaux photovoltaïques. Pourquoi aussi cet axe-là ?
Parce que c'est une réponse facile, on va dire, où les gens, sans connaître le sujet, se disent « je consomme trop d'électricité, eh bien si je la produis moi-même, ce sera moins problématique. Je paye trop cher mon électricité, bah autant que je la produise moi-même. » Finalement, c'est quelque chose, c'est une réponse simple dont se saisissent un certain nombre d'entreprises, parfois peu scrupuleuses, et pour lesquelles il faut que les gens fassent attention et qu'ils comprennent que ce n'est pas forcément la réponse miraculeuse, puisque les panneaux solaires, ils produisent surtout l'été, quand il y a du soleil, alors que le chauffage électrique, il fonctionne plutôt l'hiver, quand il n'y a pas beaucoup de soleil, puisque il fait froid. Voilà, donc là, ça peut apporter des solutions, ça peut améliorer une facture d'énergie sur les consommations, sur ce qu'on appelle le talon de consommation, donc tout ce qui est frigo, congélateur, etc., qui fonctionne toute l'année, mais pas pour vraiment la part chauffage. Donc c'est un sujet qui est assez important, mais qui, pour moi, vient après tout ce qui est amélioration énergétique de la maison, donc tout ce qui est isolation, chauffage, qui sont vraiment les gros postes consommateurs qui coûtent de l'argent. Et ça, je dirais, les énergies renouvelables, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Il faut commencer par avoir un gâteau.
Et justement, la rénovation énergétique, ça peut paraître assez complexe. Là aussi, il y a des entreprises plus ou moins fortes pour conseiller les gens. Quels sont les petits conseils peut-être que vous pourriez donner, en tout cas de base, pour ne pas se planter?
Alors, en premier lieu, ce serait de venir nous voir. Nous, on n'a rien à vendre, on est un service public indépendant, donc on n'a pas le droit d'aller orienter vers des entreprises spécifiques. Par contre, si les gens, une fois qu'ils ont un projet qui est complet, eh bien, ils peuvent faire des devis, ils ne signent pas ces devis et ils peuvent venir nous les montrer. On n'a pas le droit de dire un tel c'est un voleur, un tel il est sérieux, ça on peut pas. Par contre, on va décortiquer avec eux la prestation qui est proposée, voir si elle répond aux normes, voir si c'est pertinent pour leurs besoins, dans une certaine mesure, voir si le prix correspond à ce qu'on a l'habitude de voir pour des travaux équivalents. Et puis à partir de là, monter les dossiers de subvention dans le bon ordre, c'est-à-dire avant la signature des devis. Donc quand une entreprise vient dire aux particuliers « vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, je m'occupe des aides financières, etc. », a priori, il y a certaines aides que l'entreprise peut monter, peut se substituer aux particuliers pour les monter, mais d'autres qu'il ne peut pas, notamment l'aide de Grand Poitiers. Elle est forcément entre le particulier et nous. Donc du coup, c'est l'artisan qui propose de tout faire, alors que c'est éligible aux aides de Grand Poitiers, soit il n'est pas au courant, ce qui est un problème.
Ce qui peut arriver.
Oui, ce qui peut arriver, oui, bien sûr. Ça sert aussi à ça. On a aussi des professionnels qui viennent dans les conférences qu'on va faire. Soit il le baratine et c'est un peu dommage. Donc le conseil, c'est vraiment de venir nous voir avant, de venir nous voir avec des devis non signés pour avoir notre avis.
Et alors dans une rénovation, si il faut faire des priorités, quels sont les travaux à prioriser? Dans quel ordre, en gros, il faudrait faire ça? Vous disiez que le photovoltaïque, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc, quelle est la base?
La base, en théorie, ce que j'ai appris à l'école, c'est qu'il faut commencer par isoler. Et ensuite, il faut trouver des bonnes solutions de chauffage et ensuite des énergies renouvelables. Ça, c'est la base que j'ai appris à l'école. La réalité, elle est des fois un petit peu différente. Quand on a une chaudière de fioul qui a 45 ans, on a beau dire « oui, commencez par isoler, mettez tout votre argent pour changer vos fenêtres ». Oui, sauf que le jour où la chaudière elle tombe en panne, on aura froid quand même. Donc, selon les personnes, des fois, on va ajuster un petit peu ses priorités pour dire, là, peut-être que le chauffage, c'est plus urgent parce que ça va vous tomber dessus et vous n'aurez pas le choix que de le changer. Donc, c'est compliqué de donner une priorité absolue. Et c'est ce qui fait un peu la richesse de mon métier, c'est que chaque maison est différente.
Et alors, avec la hausse des coûts des matériaux, avec la guerre en Ukraine, c'est vrai qu'une rénovation, c'est devenu très cher. Alors, il y a des aides. Est-ce que, des fois, on se pose la question entre passer du temps à faire des dossiers administratifs pour avoir des aides et aller vers une entreprise qui sera pas reconnue. Est-ce que vraiment le coût est-ce que le jeu en vaut la chandelle?
Ça dépend quels travaux. Il y a des travaux qui sont plus utiles que d'autres. Après, le but n'est pas seulement... Enfin, quand on fait une rénovation énergétique, le but n'est pas uniquement d'aller diminuer sa facture de chauffage. C'est également l'entretien normal de son bien. C'est-à-dire quand la couverture, elle fuit, on ne fera pas d'économie d'énergie à la remplacer. mais c'est nécessaire parce que c'est l'entretien normal de sa maison. Donc du coup, il y a des choses qui sont des fois pas forcément rentables, qui sont pas forcément pertinentes également pour la personne qu'on a en face de nous. Si j'ai quelqu'un qui a des difficultés pour se déplacer, une personne âgée ou quoi, qui vient me dire je veux mettre un poêle à granulés, bah, je commence par lui demander est-ce que vous êtes en mesure de transporter des sacs de 15 kilos. Et si la réponse est non, bon, bah, ça a beau être un super système de chauffage, bah, ce ne sera pas adapté à cette personne-là.
Et justement, pour les personnes qui auraient des problèmes de mobilité, il y a aussi des aides pour adapter son logement.
Tout à fait. Il y a, alors c'est un petit peu, depuis un ou deux ans, la nouveauté dans nos missions, pour lesquelles on s'est formé, pour lesquelles on commence à avoir un peu d'expérience, c'est sur les aides liées à l'autonomie. L'autonomie donc, des personnes âgées, en particulier, donc notamment pour la réfection de salle de bain, pour en remplacer une baignoire par une douche à l'italienne avec des rambardes, etc., l'adaptation des toilettes, etc., pour le maintien à domicile, pour que on puisse vivre dans de bonnes conditions, voilà, dans une maison adaptée.
Merci beaucoup Denis Allôme, donc conseiller du Point Info Énergie de Grand Poitiers. Rendez-vous demain à 18h à Fontaine-le-Comte, oui. Le 25 mars à Chauvigny et le 16 avril à Saint-Georges-des-Baillargeaux. Merci
Absolument.
Beaucoup.
Merci.
Et tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous cinéma avec Candice Mottet-Debert, médiatrice au cinéma de Vitry. Bonjour Candice. Et tu voulais nous donner un petit rendez-vous d'abord avec un ciné-débat.
Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si on m'entend, mais ce n'est pas grave. Du coup, l'histoire de Suleyman, c'est un film qui a été multi-récompensé, qu'on adore, qui est notre coup de cœur depuis très longtemps. Et cette fois-ci, on vous le propose peut-être pour la toute dernière fois, parce que ça fait longtemps qu'on le passe et il y a toujours autant de monde. C'est vendredi 21 mars à 21h, c'est la journée internationale de lutte contre le racisme, accessoirement, qui s'inscrit donc dans le cadre de la lutte des livreurs Poitevin, qui ont choisi de s'unir dans un collectif pour demander leur régularisation. Ces derniers seront présents pour expliquer leur combat, leur parcours, leurs craintes et aussi leur détermination dans leur lutte. Cet échange y va être fait après le film avec les livreurs et ce sera animé par Mathias Haradji et Stéphane Martin de la CIMAD et Charlène Julie et Christophe Rabussier de la CFDT Union des Indépendants. Bien sûr, l'histoire de Suleyman, c'est un film de Boris Lochkin avec Abou Sangaré qui a été sacré meilleur acteur au César et on va suivre pendant un jour et une nuit la trajectoire folle de ce livreur Uber à Paris. C'est un film bouleversant et c'est un film important. Donc on vous incite à venir le voir peut-être pour la dernière séance.
Et justement demain dans Séquence Midi, on accueille donc la mobilisation, enfin les livreurs qui se mobiliseront donc le 22 mars pour demander leur régularisation. Et on continue avec le printemps du cinéma.
Et oui, c'est le printemps du cinéma, donc de dimanche à mercredi matin inclus, donc de dimanche à mardi soir inclus. Tous les cinémas de Poitiers font leur séance à 5€ et ça vaut aussi pour le cinéma Le Dietrich. Et en plus de ça, on se dit, nous on rajoute toujours des événements parce qu'on adore ça. Donc on vous propose en plus deux avant-premières. La première c'est Oksana, c'est une avant-première dimanche 23 mars à 16h30 alors que le film sort mi-avril. C'est un biopic fiction qui traite du parcours de Oksana Tchatchko qui est une des fondatrices du mouvement Femen. Si vous ne connaissez pas son histoire, ne vous renseignez pas avant le film. Venez voir ce biopic absolument bouleversant sur la création du mouvement Femen et aussi sur sa désolidarisation et presque maintenant le fait que ce mouvement qui a été quand même fondateur est un peu retombé dans l'oubli malheureusement. C'est un film avec une grande puissance féministe et politique. On vous incite franchement à venir le voir, d'autant que nous sommes dans le mois de l'égalité à Poitiers. Donc ça tombe bien. Donc c'est dimanche 23 mars à 16h30. Étant donné que c'est le printemps du cinéma, ce sera à 5€. Et la deuxième avant-première, c'est Niqab. Alors, si vous ne connaissez pas Moglai, Bap, Mokchara et DJ Provai, c'est peut-être normal, ce sont les fondateurs du groupe Niqab, qui s'appelle globalement Casseur de Genoux. Tout simplement, c'est un groupe de rap militant et indépendantiste irlandais du Nord. C'est très important. Et on adore Niqab. C'est un groupe qui existe dans la vraie vie. Vous pouvez écouter leur album. Et en plus, ils se sont eux-mêmes fait leur propre biopic. Donc, si vous voulez voir la création de ce groupe qui dépote, je vous le dis, ça dépote, ça vaut le coup. Belfast, fin des années 2010. DJ Provai, un professeur de musique, rencontre deux adolescents à la dérive et les convainc de former le trio musical Niqab. Rappant dans leur Irlandais natal, ils deviennent l'improbable figure de proue d'un mouvement pour les droits civiques et la sauvegarde de leur langue maternelle. Alors c'est un biopic musical et vraiment très militant, encore une fois, hein, chez nous, vous savez que c'est un peu légion. Je vous lis une toute petite critique avec laquelle je suis bien d'accord. Hymne rebelle pour la préservation de la culture et de la langue irlandaise, Niqab est aussi hirsute, turbulent et adorable que le groupe de hip-hop dont il peint le biopic. Dans un esprit Trainspotting anticonformiste et créatif, Rich Peppiat signe un premier film aussi feel-good que politique. On est complètement d'accord, l'avant-première c'est mardi 25 mars à 21h et c'est une très grande avant-première parce que le film ne sortira que le 18 juin au Dietrich. Donc venez profiter de ça, en plus c'est la Saint-Patrick cette semaine, donc on reste dans le thème.
Merci beaucoup pour tous ces rendez-vous cinéma sur Pulsar. Vous retrouvez ce soir à 21h l'Indépendance et à 23h Sonokino consacré à Thom Yorke. Merci beaucoup Angélique pour la réalisation technique de cette émission. Je vous le disais, ne ratez pas Séquence Midi demain, on parlera du festival Voix Publique et de la mobilisation Poitvine des livreurs le 22 mars. Et puis, ne ratez pas non plus notre émission spéciale demain soir pour le Summer Job. Nous serons en direct du Resto U Rabelais entre 18h et 19h30. On va vous parler des jobs d'été avec les étudiants, mais pas que, et avec tous les recruteurs qui seront sur place avec nous. Donc, passez une bonne après-midi et on se retrouve demain.
Pulsar.